Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
C'est le retour du week-end des experts. Un bon dimanche. Merci d'être avec nous. C'est RMC. Laetitia Barlerin toujours à mes côtés. Je vous rappelle que jusqu'à 8h, donc, ce sont les animaux, comme chaque dimanche. Et puis tout à l'heure, entre 8 et 10, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. 2 heures dédiées à l'automobile. Tout à l'heure, on parlera de la fin des voitures thermiques. Hein, cette annonce explosive, c'est le cas de le dire, annoncée par Nicolas Hulot. En 2040, plus de voitures à moteur, en tout cas à moteur thermique. On verra ça tout à l'heure. Et on fêtera aussi les 60 ans de la Fiat 500 avec Jean-Luc. Mais dans l'immédiat, Laetitia Barlerin, deuxième partie dédiée aux animaux avec l'animal au secours de l'homme.
Et oui, vous connaissez peut-être la zoothérapie ou la thérapie assistée par l'animal. Et nous avons avec nous Baudouin Duriez, qui est directeur de l'AFSTA, qui est l'Association française de thérapie assistée par l'animal. Baudouin, bonjour, merci d'être avec nous
bonjour.
En studio.
Bonjour.
Alors, vous avez fondé il y a 11 ans l'AFSTA, qui donc propose de la thérapie assistée par l'animal, zoothérapie, animal thérapie, médiation animale. Il y a beaucoup de noms hein, pour ce terme. Alors, dites-nous en quoi consiste la médiation animale.
La médiation animale, c'est simplement le fait de pouvoir interagir avec une personne grâce à l'animal. C'est-à-dire que l'animal va vraiment jouer le rôle de médiateur entre deux personnes.
C'est pas le thérapeute.
C'est pas le thérapeute. L'animal n'est jamais le thérapeute. C'est juste un rôle d'accompagnement du thérapeute.
Alors, et comment fait-il justement, quel est ce lien qu'il y a entre la personne, alors la personne, c'est souvent personnes âgées, enfants, handicapés, personnes à problème. Quel est ce lien qui se fait entre l'animal et cette personne? Parce que l'animal ne parle pas.
L'animal ne parle pas, mais il communique quand même. L'animal ne parle pas, il est pourtant source d'affection, source d'attention, source de motivation pour que les personnes puissent se mobiliser, puissent parler, puissent discuter, puissent s'ouvrir tout simplement.
Et comment on l'explique ça?
Ça, c'est l'attrait de l'animal. L'animal a un regard neutre, l'animal a un regard bienveillant, l'animal est facile à comprendre, l'animal aime, nous aime, et on aime l'animal.
Et il nous aime, il nous juge pas surtout.
Exactement.
Alors, vous intervenez avec des chiens? Alors, seulement ou avec d'autres animaux?
Alors nous, on n'a que des chiens dans l'association, exclusivement. Nous sommes intervenants extérieurs, c'est-à-dire que nous nous déplaçons dans les structures médicalisées pour accompagner des patients. Mmh. Et de ce fait, c'est un peu plus facile de se déplacer avec un chien qu'avec d'autres animaux.
Est-ce que vous avez une race particulière? Est-ce que la race est importante?
La race, pour nous, est vraiment importante. Il nous faut un chien qui soit assez joyeux, qui ait envie de l'humain, qui ait envie d'aller vers l'humain. Il nous faut des chiens assez grands pour la rééducation. Il nous faut des chiens de couleur claire pour ceux qui ont du mal à voir. Donc du coup, pour cela, on a choisi le Golden.
Le Golden? Donc le Golden Retriever qui est un chien...
Ah mais qui est une patte incroyable.
Il a une super image. Mais est-ce que c'est plutôt... Parce que les chiens joyeux, tous les chiens sont joyeux quand même. Ils sont gentils, tous les chiens. Voilà,
Tous les chiens sont joyeux, tous les chiens sont gentils. Après, on peut dire que les grands chiens sont souvent un peu plus calmes.
Oui.
Les Golden ont une bouille sympathique.
Ouais.
Et pour c'est vraiment un chien populaire. Enfin, c'est une race populaire, le
c'est une race très populaire. Ouais. Après, on pourrait faire ça avec n'importe quel chien. Après, je doute que si on vient avec un Doberman, l'attrait de la personne, l'attrait du patient soit aussi...
Mais c'est efficace. Marrant l'image qu'on a des chiens quand même. Hein, parce que Doberman, donne. C'est vrai qu'on dans beaucoup de personnes pensent que c'est un chien méchant parce que c'est un chien de garde et qu'il a été élevé pour ça.
Oui, bon après c'est n'importe quel animal. On peut tout à fait de faire un petit chihuahua, un chien extrêmement méchant, et un bosseron, un Doberman, en faire un chien extrêmement gentil. Mmh. Après, c'est beaucoup la personne, le maître qui est derrière qui va influencer sur le chien.
Alors, vous intervenez avec vos chiens, donc auprès de personnes handicapés, de personnes âgées et même d'enfants. Alors prenons les enfants. Que leur apporte une séance avec un chien? Comment se passe cette séance?
Alors c'est une séance de rééducation. Donc on est au-delà juste de l'affection. Donc il y aura de l'affection, il y aura du plaisir, il y aura du bien-être.
L'enfant
d'interagir
toucher,
avec l'animal, il veut toucher, il veut caresser, il veut communiquer avec l'animal. Après il y a des objectifs thérapeutiques. C'est-à-dire que nous on va aller un peu au-delà de la simple interaction. Ça veut dire que pour chaque enfant, il y aura des objectifs. C'est-à-dire que les médecins nous fixent des objectifs. Par exemple, pour cet enfant-là, on veut lui faire apprendre les couleurs et du coup, on va se servir du chien pour faire apprendre les couleurs à l'enfant. C'est-à-dire que pour faire apprendre les couleurs à un petit enfant atteint de trisomie ou d'autisme, plutôt que mettre des aplats de couleurs sur une table en disant où est le carré rouge, on va lui présenter différentes balles de différentes couleurs. On va dire que la balle préférée du chien, c'est la balle rouge. L'enfant, il aime le chien, il a envie de faire plaisir au chien, il a envie d'interagir avec le chien. Donc il va faire un effort pour trouver la balle rouge. Il va pas s'en rendre compte, mais il va faire un effort, il va lancer la balle rouge et le chien ira chercher la balle.
Bon, le problème, c'est que le chien va chercher toutes les balles.
En fait, le chien va chercher aucune balle sauf quand on lui demande.
Ah, ouais, ça, c'est là la petite subtilité.
Mais est-ce que les médecins sont persuadés que l'animal apporte justement, là c'est vrai quand vous dites comme ça, on se dit bah oui c'est vrai que l'animal apporte vraiment, fait en sorte que l'enfant s'améliore très vite, mais est-ce que les médecins sont persuadés de ça?
Les médecins sont persuadés parce que nous, on a une vision très simple, c'est que le chien joue un rôle de médiateur. Comme on disait tout à l'heure, le chien n'est pas le thérapeute, le chien ne va pas guérir la personne, il sera juste un facteur de motivation. Les médecins ont confiance aux gens qui sont derrière le chien. Nous, dans l'association, on n'a que des psychologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, éducateurs spécialisés. Donc c'est à eux qu'ils vont faire confiance, et plutôt que de faire de la rééducation avec des cerceaux et des ballons, ils vont faire la rééducation avec le chien. Donc ça reste une spécialité.
Et d'un point de vue hygiène, ils vous parlent pas de l'hygiène aussi, ils ont peur de...
Alors évidemment, ils ont quelques petites questions. Après, nous, on est extrêmement clair là-dessus. Nos chiens, ils ont des visites vétérinaires régulières. Tous les 3 mois, ils vont chez le vétérinaire, c'est cas de bonne santé. Après, évidemment, les structures médicalisées, il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller, comme les salles de soins ou les restaurants.
Alors, juste, vous intervenez en milieu carcéral, j'ai vu. Quelle est l'utilité du chien?
Exactement. Alors, il y a plusieurs utilités. On intervient pour milieu carcéral, pour tout ce qui est psychotique et schizophrène. Donc, ça va être plus de la communication, de la prévention au suicide, de l'hygiène corporelle, l'hygiène de la cellule. Et ensuite, on intervient aussi
avec
le chien. Et ensuite, on intervient après aussi auprès des mineurs, filles et garçons, en milieu carcéral.
Mais qu'est-ce
pour l'hygiène par exemple,
je vois pas trop le rapport.
Oui,
en fait.
En fait, il faut toujours se dire que la personne, si elle le fait pas pour nous, si elle le fait pas pour lui, elle le fera pour le chien, parce qu'elle aime le chien, parce que le chien est neutre, ne le juge pas. Ça veut dire que quand le chien, il vient dans la cellule et que le chien ne se couche pas, le détenu, tout ce qu'il veut, c'est que le chien se sente bien avec lui. Donc il va simplement me demander, mais pourquoi le chien il se couche pas alors que je l'ai vu coucher tout à l'heure? Et là, c'est juste de la communication, un support de communication. À ce moment-là, on va dire, bah, peut-être que la cellule est un peu sale, le chien est un peu précieux, il veut pas se coucher. Et on sait que la prochaine séance, le détenu va faire un effort sur l'hygiène de la cellule, enfin, nettoyer le sol, par exemple. Juste pour que le chien, parce qu'il a envie de voir le chien se coucher auprès de lui dans sa cellule.
Ah, c'est vraiment...
Oui, il est complètement différent aux réactions des humains, mais en revanche, la réaction du chien va le pousser à nettoyer sa cellule.
Exactement.
Et plus qu'un humain, c'est-à-dire qu'on peut demander quelque chose à une personne, elle refuse, mais si c'est pour le chien, elle le fera.
Exactement.
C'est incroyable ça. Et alors parlons des chiens. Comment sont-ils sélectionnés? Parce que bon, on a vu la race, mais est-ce que vous sélectionnez certains chiens? Parce que j'imagine que voilà, tous les chiens ne peuvent pas être des médiateurs comme ça. Et comment vous faites aussi en sorte que leur bien-être aussi soit assuré?
Alors, les chiens sont évidemment sélectionnés. Il y a une formation qui est faite pour ça. C'est-à-dire que nous, on sélectionne des chiots à 2 mois et demi. Après, on veut des chiots pas trop dominants. On veut des chiots qui aiment bien aller vers l'humain, qui ont besoin du contact avec l'humain. Et ça, il y a des tests à faire sur les chiens dès qu'ils ont 2 mois et demi. Ensuite, l'éducation du chien est vraiment importante. C'est-à-dire qu'il y a une éducation après jusqu'à 15 mois avant qu'ils commencent à travailler. Et là, ils sont en famille d'accueil. Et le but, c'est de les socialiser au maximum. On va les accompagner dans différents milieux dans lesquels ils seront confrontés plus tard. Après, le bien-être du chien, on va s'en préoccuper beaucoup. Il n'y a pas de cadre ou de réglementation française sur le travail du chien. C'est un peu ça le problème.
Oui, parce que...
Le chien, il peut travailler que 20 minutes par jour comme les chiens de décombre, comme il peut travailler 8 heures par jour comme les chiens de sécurité. Nous, on a fixé un barème, on a fixé des règles. Nous, le chien, il peut pas travailler plus de 3 heures par jour, pas plus d'une heure d'affilée, avec minimum une heure de pause entre chaque heure de travail.
D'accord.
Après, il faut voir.
Donc
que
vous avez une charte pour le bien-être.
Parce on a une charte pour le bien-être animal au sein de l'association.
Épuisant pour le chien. L'air de rien, c'est pas seulement arriver, courir après une balle, c'est épuisant pour le chien quand même, des séances comme ça.
C'est épuisant. Pour lui, c'est toujours un moment de bien-être, de jeu, parce qu'il va lancer les balles, on va le caresser, etc. C'est épuisant pour lui dans le sens où c'est un peu une éponge. C'est-à-dire que si la personne est très volubile, le chien sera aussi un peu volubile. Si la personne est très calme, très apathique, le chien sera aussi un peu apathique. Le chien va se calquer par rapport au patient, par rapport à la personne qui est en face de lui. Donc du coup, il lui faut des pauses régulières pour un peu se retrouver.
Que pensez-vous justement donc de ce bien-être psychologique apporté par les animaux et en l'occurrence les chiens? N'hésitez pas à réagir ce matin, le 32-16 donc au standard, ou bien par mail animaux@rmc.fr ou via l'appli RMC et Direct Studio. On revient dans un instant, il est 7h18.
RMC 6h-8h, vos animaux. RMC 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le retour du week-end des experts, les animaux. Tout à l'heure avec Laetitia, dans quelques minutes, on reviendra sur cette histoire incroyable. Hein. 200 chats qui ont disparu il y a quelques semaines de cela. C'était à Saint-Pierre-sur-Mer. On en avait parlé il y a quelques temps.
Et on soupçonnait un empoisonnement massif, bien sûr.
Voilà, on pensait que c'était un acte malveillant, mais visiblement...
Les premières autopsies pensent plutôt à un problème de virus, de calicivirus,
On en parlera tout à l'heure et puis on va vous expliquer ce qu'est le troc de la garde de son animal. C'est quelque chose d'assez tendance. Et pour les vacances, ça peut être assez pratique. On en parle dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, on évoque le bien-être psychologique de l'homme grâce aux animaux avec notre invité Baudouin Durier qui est avec nous en studio.
Voilà, qui est directeur de l'Association française de thérapie assistée par l'animal. Et je crois qu'on a un témoignage de Laurence.
Qui est avec nous. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Bonjour. La thérapie assistée par l'animal, vous connaissez ?
Alors oui, un petit peu par hasard.
Oui.
C'est mon histoire. Donc moi, je suis alcoolique abstinente depuis à peu près 8 ans et j'avais touché également à certaines drogues. Alors je me suis soignée et j'ai passé des diplômes en pratique addictive.
Oui.
Et tout à fait par hasard, dans le cadre de ma reconstruction, j'ai adopté un petit chien que j'étais cherché à la SPA. Elle s'appelle LOL. Et comme ce petit chien a été maltraité, je m'en suis beaucoup occupée. Et quand j'animais mes groupes de parole, parce que parallèlement, j'ai créé mon association et j'anime des groupes de parole avec des patients qui viennent spontanément, quand ils ont le courage de le faire, parce que c'est pas évident, mais qui viennent donc tous les mardis partager leur propre histoire et essayer donc de se guérir. Eh bien, figurez-vous que depuis un an, j'ai pris une petite LOL avec moi, parce que je ne voulais pas la laisser toute seule, et je l'ai installée sur mes genoux.
Et
c'est incroyable, le résultat qui s'est produit en un an. D'abord, moi-même, je suis beaucoup plus apaisée, je suis accompagnée par mon petit chien, donc ça c'est très important. Et par rapport aux personnes qui sont là, alors c'est toujours un groupe de 10-12 personnes, parfois des gens assez énervés parce qu'encore sous l'emprise du produit, certains viennent, voilà. Mais en fait, ils sont beaucoup plus calmes, c'est plus du tout la même ambiance. Alors pour revenir au chien, qui est quand même un jeune chien parce qu'elle a un an et demi, elle ne bouge pas pendant une heure et demie. Ses yeux, elle regarde... Elle écoute, et quand je raconte l'histoire de la maltraitance de cette petite chienne, en fait, il y a des patients qui commencent à parler de leur propre histoire, et souvent d'ailleurs, dans les profils d'alcooliques drogués, vont retrouver cette souffrance et la maltraitance. Et donc, ça les amène à confier leur propre histoire, et après, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est depuis un an que je fais ça. Je le fais à Valence, à l'hôpital de Valence, ils n'ont pas voulu, parce que les animaux ne sont pas admis. Mais là, j'ai le grand bonheur de dire, à Privas, donc à l'hôpital de Privas, c'est dans la Drôme, on va démarrer le 14 septembre et j'ai le droit d'avoir cette petite chaîne sur mes genoux. Voilà.
Alors, bravo Laurence, et merci pour ce témoignage.
Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, plus, vous avez sauvé une petite chienne qui sauve les hommes. C'est incroyable, quoi.
Qui est devenue un petit peu votre assistante, finalement.
Voilà,
si j'ai bien compris.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Là, on a un bel exemple de support de communication. Ça veut dire que le chien va servir de support de communication pour aborder le sujet. Il libère la parole. C'est-à-dire que le chien, on peut raconter l'histoire du chien. On peut s'identifier par rapport à l'histoire du chien. Donc, c'est l'effet miroir, tout simplement.
Et
ça va libérer la parole.
Il il a un passé compliqué.
Il a un passé compliqué, donc on ça favorise à tout ça. Un peu sa parole, son autre passé compliqué.
Mais c'est vrai que on parlait des établissements hospitaliers, il n'y en a pas beaucoup qui acceptent les animaux, non? Ça doit être compliqué.
Ça dépend des services, de plus en plus.
De plus en plus.
La PHP, oui. La PHP à Paris ouvre un peu les portes à la médiation animale.
Et après, là, qui décide ça? C'est le patron de l'établissement?
Oui. C'est les chefs de service.
D'accord.
Après, il y a certains services où ce sera jamais possible, d'autres ça sera possible.
Voilà, ça dépend. Alors, il y a quand même 20 ans, ils n'étaient pas du tout acceptés. Là, il y a quand même, ça évolue et de plus en plus, le monde médical s'ouvre justement à cette thérapie assistée par l'animal.
Exactement, oui, de plus en plus.
Alors, j'ai vu aussi que c'est inédit, vous vous proposez des séances de zoothérapie lors de conflits familiales.
Exactement. Le but, c'est pour renouer le lien parent-enfant. C'est-à-dire que si le lien est un peu tendu entre les parents et les enfants.
C'est ça,
Pascal le grand frère.
C'est ça.
En fait, le but, c'est que plutôt que de proposer aux parents, avec une psychologue, de jouer à des jeux de société, etc., pour renouer le dialogue. Alors, très souvent, c'est des enfants qui ont été retirés de la charge parentale. Donc, les parents ont un droit de visite d'une heure ou deux par semaine. Et de ce fait, on va mettre un chien dans ce moment-là, pendant cette visite. Et du coup, le chien va combler un vide, va combler le manque affectif, va combler aussi le manque de communication. Plutôt que se retrouver face à face avec un jeu de société, du coup, le chien va occuper de l'espace de parole, par exemple. C'est-à-dire que si on veut dévier la conversation ou s'il y a un blanc, avec un chien, il n'y a pas de blanc. Avec un chien, on peut caresser, on peut jouer avec le chien.
C'est vrai qu'il y a des silences qui sont tendus. Pesant, voilà. Et le chien en fait va
combler ce silence. Et de par son côté neutre, naturel, pas calculé, jovial, du coup, il va détendre l'atmosphère.
C'est génial. C'est tout simple, mais c'est génial. 7h27, on revient dans un instant. Le 3216, animaux@rmc.fr ou bien via l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas à réagir. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h33, c'est RMC, le retour du week-end des experts animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Dans quelques instants, on parlera de calicivirose. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est peut-être une maladie qui est à l'origine de la mort de 200 chats. On va en parler dans quelques instants. Et puis on va évoquer aussi le fait de pouvoir troquer la garde de son animal pendant les vacances. Ça peut être bien pratique.
Bien pratique pour cet été et bien économique aussi. Alors, nous sommes toujours avec Baudouin Duriez, qui est directeur de l'Association française de thérapie assistée par l'animal. Donc on a vu avec vous ce que vous proposez. Alors, beaucoup de personnes veulent être médiateurs animaliers, c'est-à-dire la personne qui est avec le chien et qui va faire les séances. Comment devenir médiateur animalier?
Alors, le plus simple, c'est de considérer le chien comme un médiateur, comme une spécialité. Donc avant tout, pour faire de la médiation animale, il faut avoir le diplôme et le métier requis en amont. Ça veut dire que quand on veut faire de la thérapie assistée par l'animal, il faut tout simplement être thérapeute. Si on veut faire de l'animation assistée par l'animal, il faut être animateur.
D'accord, donc il faut avoir d'abord ce métier-là et après éventuellement inclure le chien dans la thérapie.
Exactement.
Alors vous proposez aussi d'être famille d'accueil pour futurs chiens médiateurs, donc recevoir à la maison des Golden Retrievers de 2 mois, c'est ça?
Exactement, on reçoit des petites peluches de 2 mois et demi qu'on est en charge d'éduquer, de socialiser jusqu'à leurs 15 ans, 15 mois.
Ah oui, 15 ans, on peut les garder 15 ans, mais bon, après, donc ça veut dire jusqu'à 15 mois, c'est un peu comme les familles d'accueil pour futurs chiens guides d'aveugles, on les garde jusqu'à 15 mois et après, on vous les confie, vous les reprenez pour les éduquer, c'est ça?
Exactement, on va les reprendre pour après les confier à des intervenants qui vont intervenir dans la structure médicalisée. Donc c'est vraiment une action de bénévolat auprès des chiots pour les prendre, les accompagner, les éduquer, tout ça encadré et soutenu par l'association, évidemment.
Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même, il faut donner une éducation de base aux chiots, et ça vous les encadrez, vous encadrez les familles.
Oui,
et vous en avez besoin dans toute la France?
Alors on est vraiment centralisé sur l'Île-de-France pour tout ce qui est famille d'accueil.
D'accord. Très bien, voilà, le message est passé quand même.
Parfait, merci beaucoup Baudouin.
Merci, donc je rappelle, votre association, c'est l'Association française de thérapie assistée par l'animal, qui fait partie d'ailleurs de l'arche des associations. Merci beaucoup.
Merci. Laetitia, on va aller maintenant à Saint-Pierre-sur-Mer. On avait parlé de cette histoire incroyable il y a quelques temps de cela. On pensait au départ à un acte malveillant. 200 chats, plus de 200 chats, avaient disparu là-bas.
Voilà, c'est une petite ville balnéaire. Hein,
oui.
Donc, et on avait eu un témoignage. témoignage d'une personne qui avait perdu ses chats.
Oui, qui en avait beaucoup et qui les avait tous perdus. Voilà. Et on se demandait ce qui s'était passé.
Voilà, et il y a une enquête qui a été ouverte et des autopsies qui ont été faites. Alors les premières autopsies, je dis bien les premières parce qu'il y en aura d'autres, avancent plutôt la thèse d'un virus retrouvé sur plusieurs chats, le calicivirus. Et nous sommes avec le docteur Brice Reynolds de l'École nationale vétérinaire de Toulouse pour connaître un petit peu plus cette maladie. Brice, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François et bonjour à tous vos auditeurs.
Alors, c'est vrai que quand on parle d'un virus qui pourrait causer la mort de plusieurs chats, on a de quoi s'affoler, hein, les propriétaires de chats de cette ville, mais aussi les autres. Alors dites-nous ce qu'est la calicivirose.
Eh bien, la calicivirose, c'est la maladie qui est éventuellement observée à la suite de l'infection d'un chat par un calicivirus félin. Mais il est difficile de parler de calicivirose sans parler du calicivirus, parce que c'est un calicivirus qui a un certain nombre de particularités,
oui.
Et notamment celle de pouvoir changer facilement certaines de ses caractéristiques lorsqu'il se multiplie.
C'est-à-dire qu'il peut évoluer comme le virus de la grippe, par exemple.
Absolument, c'est une comparaison qui est tout à fait appropriée. Et il se présente donc sous une multitude de formes différentes,
oui.
Qu'on appelle des souches ou des variants, et qui sont susceptibles d'avoir des propriétés également différentes, notamment en termes de pouvoir pathogène. Et donc, il existe potentiellement autant de calicivirose ou de formes de calicivirose que de souches ou de variantes de calicivirus.
La forme qu'on connaît le plus, et celle pourquoi on vaccine aussi le chat, c'est qu'il fait partie du syndrome coryza. Le coryza, c'est vraiment une maladie que connaissent beaucoup de propriétaires de chats.
Absolument. Alors, simplement à propos du coryza, ce que je voudrais dire, c'est que le terme de coryza est un terme qui fait peur, notamment à tous ceux qui possèdent des chats. Mais en fait, ça va beaucoup mieux quand on utilise un synonyme du mot coryza, qui est le mot rhume.
Voilà,
le coryza, c'est le rhume du chat, donc on est plus détendu quand on parle de rhume que quand on parle de coryza. Mais vous avez raison, hein, c'est un virus qui est extrêmement commun, et on peut dire qu'à de très rares exceptions près, tous nos chats ont déjà été en contact avec un calicivirus très tôt au cours de leur vie. Et donc ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, l'infection est effectivement asymptomatique ou se manifeste par une calicivirose bénigne.
Voilà, comme un rhume.
Oui, je vous dis un mot simplement de ce rhume qui il est un peu particulier. C'est une inflammation locale de la bouche ou du nez qu'on reconnaît, nous, vétérinaires, par la présence de petites érosions ou d'ulcérations superficielles des muqueuses, notamment de la muqueuse buccale, hein, quelque chose qui ressemblerait à une aphte. Et c'est un syndrome qui est accompagné d'une fièvre et surtout qui guérit tout seul en quelques jours.
Alors, est-ce que l'infection peut être fatale pour les chats et causer une grande mortalité, comme on a vu dans cette ville où on se demande si c'est pas ce virus-là? C'est quand même, parce que quand on connaît la forme classique de la calicivirose, c'est ce rhume. On meurt pas d'un rhume.
Absolument, on ne meurt pas d'un rhume. Mais compte tenu de ce que je vous ai dit en préambule, malheureusement, l'infection peut être fatale dans certains cas, car certaines souches de virus qui sont beaucoup plus pathogènes peuvent occasionnellement apparaître et être à l'origine de foyers localisés d'une forme grave de la maladie.
Et ça peut tuer, on parle de 200 chats à Saint-Pierre-sur-Mer, est-ce que ça peut tuer 200 chats dans un quartier, alors a priori c'est dans un quartier, sur quelques semaines?
Effectivement, ce qui caractérise ces formes graves de calicivirose, hein, qui sont très rares, c'est qu'elles peuvent s'accompagner d'une mortalité qui se situe entre 40 et 80% au sein des foyers de maladie.
D'accord, donc, mais c'est très rare quand même. Ce cas est très rare, hein.
Absolument, c'est très rare. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a dans la littérature internationale 8 descriptions de foyers de calicivirose grave de ce type. Donc c'est vraiment quelque chose qui est marginal.
Ah oui, parce que 8 cas dans le monde, ça fait pas beaucoup, hein, quand même.
Alors, ça fait 8 cas publiés, ça veut dire qu'il y en a certainement plus. Mais c'est une maladie qu'il faut connaître, mais c'est une maladie, ou en tout cas une forme de la maladie qui reste très très minoritaire, comme je vous l'ai dit auparavant. Alors dans le cas présent, est-ce qu'un caducivirus peut tuer près de 200 chats en quelques semaines? On peut pas l'exclure, mais bien que qu'ayant très peu d'éléments, je suis pas convaincu que le caducivirus soit le coupable dans le cas que vous avez évoqué.
D'accord. Et il faut savoir. On n'a pas encore les conclusions. Hein,
c'est ça. En tout état de cause, il est techniquement possible de répondre à cette question-là. Donc vous serez. Nous devrions être très prochainement fixés sur ce cas particulier.
Alors, il existe une vaccination contre le calicivirus qui fait partie des vaccinations annuelles classiques. Est-ce que le vaccin protège contre ces formes graves ?
Alors, par rapport à la vaccination, il s'agit effectivement d'un vaccin qui est considéré comme un vaccin essentiel, qui est unanimement recommandé. Et il est très important que nous continuions à vacciner tous nos chats contre ce virus, notamment pour maintenir une bonne immunité de population. Donc ça, c'est le premier message. Hein. Très important de continuer à vacciner les chats contre ce virus. Cependant, compte tenu de la variabilité du calicivirus félin, il est assez difficile ou impossible d'obtenir une protection complète contre tous les variants circulants et donc contre toutes les formes de la maladie. Et le deuxième message, c'est que il serait de ce fait imprudent de considérer qu'un chat, même bien vacciné, est protégé contre toutes les formes, notamment les formes graves de calicivirose.
Parce que je crois que dans les chats qui ont été qui sont morts à Saint-Pierre-sur-Mer, il y avait des chats de propriétaires éventuellement vaccinés. Je ne sais pas, je n'ai pas les détails, mais on peut aussi se demander.
Absolument. Donc le spectre de protection qui est conféré par le vaccin contre le calicivirus félin et par tous les vaccins est toujours large, mais il peut être incomplet et il peut notamment être incomplet vis-à-vis des formes graves de la maladie.
D'accord.
Nous avons Annie au 3216 qui nous a appelé pour témoigner ce matin. Visiblement, on a plusieurs chats qui sont atteints de cette maladie. Bonjour Annie.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour,
merci
Annie.
De tout ce que vous faites.
C'est gentil.
Je vous ai déjà eu plusieurs fois au téléphone parce qu'avec 17 chats.
Ah oui,
c'est 17 raisons de nous appeler.
Absolument, il y a toujours quelque chose. Donc, je suis tombée sur des chats d'élevage. Et c'est une autre émission, ça. Hein, qui sont atteints de la calicivirose et de beaucoup d'autres choses. Des Maine Coons, notamment.
Oui.
Parce que, on fait de l'argent et on n'élimine pas les chats reproducteurs atteints. Voilà.
Oui, donc, ce ne sont pas des vrais professionnels, oui.
Voilà. J'en ai un roux qui a 12 ans maintenant que mon vétérinaire m'a dit, il est en vie grâce à vous. Il est très malade pour plusieurs raisons. Et lui, il a un coryza chronique abominable dans le sens où il n'est pas contagieux, mais le nez coule épais en permanence.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment un gros souci. Et dans les autres chats, ils font des crises de calicivirose, plusieurs. Alors, on a dû arracher toutes les dents.
Des crises, ça veut dire quoi? Ça veut dire des rhumes ou autres?
Non, par exemple, une gingivite aiguë.
Oui, ça, on va en parler avec Brice.
Les dents tellement rouges qu'on ne peut plus rien faire. Des herpès des yeux. J'ai pu soigner, mais ça peut revenir à tout moment, tout d'un coup. Alors, je surveille bien. Et quand ils éternuent dans ma troupe, là, eh bien, simplement, j'ai trouvé un truc. C'est homéopathique. C'est du respil. Eh bien, 20 gouttes matin, midi et soir. C'est tout bête. Ça n'a pas de goût. On leur met dans la gueule comme ça. Eh bien, j'arrive à enrayer ces éternuements avec ça. Et mon vétérinaire m'a dit, vous essayez une semaine, ça passe pas. Allez hop, antibiotiques. Mais on essaye d'éviter les antibiotiques.
Oui, bien sûr.
Oui, j'imagine. Voilà. Alors, Brice, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, voilà, là, on a une communauté de chats. 17 chats. C'est sûr que le calicivirus circule bien entre les chats, comme on dit.
Absolument. C'est effectivement une maladie qui est d'autant plus présente qu'on a un effectif important de chats, parce que ce virus, avec cette capacité d'échapper à l'immunité en changeant, circule très très bien dans ces communautés de chats. Alors Annie nous a parlé de deux problèmes qui sont un petit peu différents. Le premier, c'est la rhinite chronique, et habituellement le calicivirus n'est jamais en cause dans ces cas-là. C'est plutôt des séquelles d'autres infections virales ou des affections qui sont différentes. Et puis les lésions de gingivite stomatite chronique féline, dans lequel le calicivirus joue un rôle,
oui.
Mais là, on est dans un contexte très différent. Il ne s'agit pas d'une maladie qui est contagieuse. Il s'agit d'un état dysimmunitaire local, donc une intolérance locale au portage chronique du calicivirus. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique.
D'accord. Alors, juste pour conclure... Quand on a des populations de chats autour de chez soi et qu'on craint la calicivirose, la meilleure chose à faire, c'est quand même de vacciner son chat.
Ah, il faut toujours vacciner son chat. Il faut vacciner son chat. C'est la première
Bien
étape
sûr.
De la protection contre cette maladie.
D'accord.
Et le vaccin va protéger contre la plupart des formes cliniques auxquelles le chat va être exposé, sans qu'on puisse exclure que cette protection soit incomplète.
D'accord. Merci Brice. Donc les vaccins, c'est les vaccins classiques, hein, ce qu'on appelle le vaccin contre le coryza, typhus coryza, voilà. Et ça inclut bien sûr le calicivirus. Et je vous conseille bien sûr tous ceux qui ont des chats, même qui ne sortent pas, de vacciner votre chat tous les ans. Chez votre vétérinaire.
Merci,
bien
docteur.
Sûr. Merci,
docteur.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Merci.
Merci à vous et bon dimanche.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Et merci, Annie, pour ce témoignage. Donc, 7h47, Laetitia. On va revenir dans un instant et on va terminer ce rendez-vous animaux avec quelque chose d'assez malin. Pourquoi ne pas troquer la garde de son animal de compagnie pendant les vacances? Vous vous dites, oulala, ça a l'air compliqué. On va tout vous expliquer dans un instant. À tout de suite.
RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Votre matinée sur RMC dans quelques instants, la météo des infos, il sera 8h. Et puis ensuite, on enchaînera avec l'automobile et Jean-Luc Moreau. Jean-Luc qui répondra à toutes vos questions auto. Tracter une remorque, quelles sont les règles? L'essai de la semaine, ce sera l'Alfa Romeo Stelvio, qui est le premier SUV de la marque Alfa Romeo. On parlera aussi d'une autre marque italienne tout à l'heure, c'est Fiat, qui fête les 60 ans de la Fiat 500. Je suis persuadé, Laetitia, que vous craquez, tout comme tout le monde, hein, d'ailleurs, sur la petite Fiat 500.
J'en ai une.
Eh bien, voilà.
Rouge, bien entendu.
Eh bien, voilà, 60 ans hein, pour cette Fiat 500, on en parlera
elle
tout à l'heure.
Elle n'a pas 60 ans, la mienne, mais bon.
Non, elle est plus récente. Mais elles sont mignonnes, les toutes premières, là. Exceptionnel. Et puis on évoquera aussi peut-être la fin des voitures thermiques. C'est Nicolas Hulot qui a annoncé ça, qui veut mettre fin aux véhicules thermiques au plus tard en 2040. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc. Mais d'ici là, Laetitia, on va découvrir le site Animal Futé.
Voilà, c'est un site qui propose l'échange de gardes d'animaux. Alors, nous sommes avec Blandine Damour, qui est présidente fondatrice du site Animal Futé. Blandine, bonjour.
Oui, bonjour Laetitia.
Bonjour Blandine.
Bonjour. Alors, dites-nous un peu comment cela fonctionne. Par exemple, je suis propriétaire d'un chien, je dois partir en vacances au mois d'août. Que dois-je faire?
Alors, il suffit d'aller sur le site et déjà en page d'accueil, vous allez voir, vous avez un outil de recherche qui vous permet de voir avant même d'adhérer quels sont les propriétaires de chiens près de chez vous, quel type de chien ils ont, quelles caractéristiques, mâles, femelles, vaccinés, etc. Enfin, il y a tout un tas de détails.
Oui.
Et surtout, à quelle distance ils sont de chez vous.
Oui.
Donc, déjà, ça vous permet de voir quels sont les adhérents près de chez vous. Et ensuite, il suffit d'adhérer pour pouvoir entrer en relation, les contacter. Et puis, évidemment, prendre le temps de faire connaissance. Hein, ça, c'est une étape importante. Il y a beaucoup de gens qui appréhendent mal notre formule en s'imaginant qu'il s'agit de laisser son chien chez un inconnu. 2 heures avant de prendre le TGV, c'est pas ça du tout. Il s'agit de pouvoir se créer un petit carnet d'adresses de gens qu'on a rencontrés, en général avec lesquels on sympathise très vite, et dans tous les cas avec qui on prend le temps de faire connaissance, pour ensuite se dépanner de façon récurrente dans l'année, pendant les vacances d'été, des week-ends, et voilà, toute l'année.
Est-ce que tous les animaux peuvent être gardés via votre site? Parce que je parle du chien, mais peut-être chat, lapin,
chat aussi. Tout à fait.
Alors, je sais pas.
D'ailleurs, vous avez cité le tiercé dans l'ordre à peu près en termes d'effectifs sur le site. C'est d'abord les chiens qui sont les plus nombreux, ensuite les chats, et puis les lapins sont les premiers NAC effectivement représentés. Il y a beaucoup moins de NAC que de chiens et de chats. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça.
Oui.
C'est probablement plus facile de caser, entre guillemets, un NAC. Et pourtant, ils ont un tarif d'adhésion. Alors, il y a un prix d'adhésion. Hein. La seule chose qui est payante, c'est une adhésion.
Oui.
Et c'est 30 euros pour l'année, pour chien et chat.
Pour entrer en contact avec des personnes qui peuvent échanger les gardes. Mais est-ce que les deux familles signent un contrat de garde ou un protocole ou quelque chose?
Oui, tout à fait. Nous, on les incite à le faire, en tout cas. Alors, comme on a affaire à des Français, il y a à peu près 20% des gens qui le font, et les autres qui tapent, qui font un top-là dans la main, et c'est un accord oral, souvent. Mais nous, on incite, en tout cas, à formaliser un petit accord, un formulaire en ligne,
oui.
Qui nous permet aussi de solliciter des avis ensuite, derrière. Et cet accord permet notamment d'éviter toute ambiguïté sur les dates, ça se crée très facilement, il y a un système de validation en deux clics, et nous on incite les gens à le faire vraiment, et oui, donc il y a cette possibilité.
Oui, parce qu'il y a aussi une responsabilité hein, qui s'engage.
Oui, tout à fait aussi.
À garder l'animal de l'autre.
Absolument, après voilà, c'est un système qui est quand même basé sur la confiance, hein, clairement. Mm. Mais oui, nous on incite à utiliser ce petit formulaire.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui partent au mois d'août. Par exemple, moi, si je garde le chien de quelqu'un au mois de juillet, et quand je pars, la famille ne peut plus garder mon chien. Comment ça se passe? Parce qu'il faut vraiment trouver un échange.
Ouais, alors bah ça peut dans l'absolu, hein, bien sûr, personne n'est à l'abri de quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui a un empêchement de dernière minute. Bah ça se passe.
On a un compteur, on a quoi?
Non, il n'y a pas de compteur. Enfin, je veux dire.
C'est la confiance.
Oui, c'est la confiance. C'est-à-dire, ça peut arriver exactement de la même façon avec un pet sitter que vous auriez sollicité qui vous lâche au dernier moment, ou avec quelqu'un de la famille. D'ailleurs, on a quelquefois des gens qui arrivent sur le site justement parce que ils ont été plantés entre guillemets par des gens qui devaient leur garder leur chien, puis finalement qui au dernier moment peuvent pas.
Oui.
Donc, parmi nos adhérents, sincèrement, c'est arrivé quelquefois, mais j'ai pas souvent entendu parler cette configuration-là. La plupart du temps, c'était justement des gens qui utilisaient pas le formulaire malgré le fait qu'on les y incite et sur lequel il y avait des ambiguïtés de date.
Ah,
ou
oui.
Alors, donc ce genre de choses. Mais sinon, des défaillances de dernière minute, sincèrement, c'est très rare parce que les gens se font confiance, ils se voient et donc ça, concrètement, c'est enfin, c'est pas du tout quelque chose de fréquent, en tout cas.
D'accord. Et est-ce que vous incitez aussi à ce que les gens se voient donc avant, et surtout
ah, oui.
voient si les deux animaux s'entendent bien, parce que s'ils s'entendent
ouais.
pas, est-ce qu'il y a
non,
des,
non, mais bien sûr.
Est-ce que vous demandez à faire des tests, par exemple, je sais pas, hein, garder l'animal un week-end avec l'autre pour voir comment
alors,
ils s'entendent.
Tout à fait. Nous, quand ils s'inscrivent, quand les adhérents s'inscrivent, on leur envoie tout un ensemble de conseils qui correspondent à notre expérience du site, parmi lesquels, évidemment, le premier conseil, c'est de se rencontrer avec les animaux.
Mmh.
Mais c'est la première chose qu'ils font de toute façon, même sans qu'on leur conseille, parce que c'est tellement intuitif de vérifier que deux toutous vont s'entendre en particulier, qu'ils le font de toute façon, oui, bien sûr. Et ça, les gens qui ont des animaux sont parfaitement conscients que mâle-mâle, par exemple, il peut y avoir des
oui,
problèmes de chien dominant, etc. Donc, ils le font de façon tout à fait naturelle et intuitive.
Il paraît que de belles histoires se nouent autour de ces gardes d'animaux.
Oui, très souvent, les gens se créent vraiment un petit carnet d'adresses et deviennent amis. Et on a de belles histoires, effectivement. Alors, par exemple, là j'en ai une en tête, c'est une Italienne qu'on est allé filmer pour faire une petite vidéo de témoignage, qui arrive à Paris, qui connaissait personne, et qui par l'intermédiaire, parce qu'elle avait un chat, a rencontré des adhérentes Animal Futé. Et puis j'ai trouvé son histoire touchante parce qu'elle racontait que ça lui a permis effectivement de se créer quelques contacts à Paris, ce qui n'est pas si évident quand on connaît personne. Et son témoignage finissait par à la fin, on est allé faire de la salsa sur les bords de Seine avec son adhérente. J'ai trouvé ça super. Enfin, des histoires d'amitié, on en a très souvent. Ça, c'est clair.
Et oui, il faut avoir confiance de toute façon pour laisser son chien ou son chat ou son lapin à un inconnu. Donc c'est vrai que c'est, ça peut être le début de belles amitiés.
Merci beaucoup Blantine.
Merci beaucoup Blantine. Je vous rappelle, vous êtes fondatrice du site Animal Futé qui propose l'échange de garde d'animaux. Un petit peu comme on échange ses maisons, sa maison maintenant. Hein. C'est vrai que c'est très à la mode.
Oui, est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un pour garder Jean-Luc Moreau l'été ? Par exemple.
En échange de
quelqu'un
quoi?
Quelqu'un fait de la garde de cochon quelque part, non?
Bonjour, messieurs, dames.
En plus, vous faites
bonjour.
Bien le cochon, c'est bien connu. Hein,
ouais, mais je ne le ferai pas là pour
vous
embêter.
Oh non,
embêter,
moi
non.
J'adore quand il fait le cochon.
Laetitia, notre vie privée, regarde personne.
C'est vrai. Elle adore quand vous faites le cochon, c'est plutôt pas mal quand même. Hein, c'est intéressant. Ah,
voyons.
Et voilà. Très bien. Bon, Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, bien sûr.
Oui,
on sera là à 6h-8h.
Je vous souhaite un très bon dimanche à tous, une belle semaine. Je vous embrasse, à dimanche prochain.
Et dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Après la météo et les infos, à tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.